Le Vegas, c'est le plus beau bar sportif à Québec. Pour voir des événements sur un écran de 12 pieds et sur nos 10 placements. C'est aussi des soirées karaoké, des DJ, des spectacles. C'est 8 tables de billard, des jeux de dards et un salon VIP pour vos événements. Donne fringale, viens goûter à nos ailes de poulet, notre pizza, notre smoked meat ou nos sous-marins. Le Bar Vegas est fier d'être pirate. Service de raccompagnement TZ disponible. Bar Sport Vegas, boulevard Saint-Anne à Québec.
On vous le dit, au printemps, on est en feu chez Pièces d'Auto Économique. Des promotions, on en a. On est prêt pour votre voiture, qu'elle soit d'abord en bonne condition et également qu'elle soit propre et belle. Jusqu'au 31 mai, Martin et sa gang de crinqués chez Pièces d'Auto Économique vous offrent 15 % de rabais sur les freins Perfect Stop et également sur les plaquettes Bosch. Quand on vous dit additionnel, c'est qu'on a déjà des prix qui sont super agressifs, les meilleurs de l'industrie. Et on rajoute un 15 %. On a 15 % de rabais additionnel également sur les essuie-glaces Bosch. En mai, on a aussi le mois de l'amortisseur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 15 % additionnel sur les produits Monroe, KYB, Unity et TMC. Pièces d'Auto Économique ouvert en passant le samedi en avant-midi au 1240 Boulevard Charest. C'est le gros magasin au coin de Saint-Sacrement et Charest. Surveillez l'ouverture bientôt d'une 9e succursale de Pièces d'Auto Économique. Si vous voulez commander en ligne parce que vous êtes plus loin, pas de problème. On a des prix écœurants et en plus, la livraison est gratuite ou encore un très faible coût selon la région où vous êtes. Pièces d'Auto Économique, c'est 8 magasins. Un site transactionnel, en passant, c'est bientôt 9 magasins. Un site transactionnel et un seul proprio, 100 % local, 100 % québécois. Pièce économique avec un S.com. Action VR et Caravane 185, partenaires de Radio Pirate, vous offre une grosse promotion pour commencer l'année 2024. Vous êtes là à préparer le camping de la famille pour cet été ou encore les vacances? On a, chez Caravane 185 et Action VR, les produits de 2024, les nouveaux produits qui viennent de rentrer. On les a au prix de 2023. Wow! Tout coûte plus cher qu'avant, partout. Mais pas chez Action VR et chez Caravane 185. Je vous rappelle que JP, méga pirate. JP est tanné d'entendre Jeff parler de petits motorisés, la petite classe B. Là. Eh bien, on a maintenant le Talavera et le Compass disponibles. Pour les amateurs de plein air, n'oubliez pas que VR Cargo, ça se passe chez Action VR, le plus gros vendeur, le plus gros détaillant de VR Cargo Québec. Vous pouvez mettre là-dedans votre moto, votre 4 roues, votre side-by-side, vos canots, vos motocross, il y a de la place. C'est extraordinaire. Que ce soit pour la vente ou l'achat d'un véhicule récréatif, on a ce que vous cherchez. Action VR, chemin Filteau-Saint-Nicolas. On est également à Saint-Antonin avec Caravane 185. Et sur le web, pour tout le monde, actionvr.ca ou groupevr185.com.
Fini l'époque où tu devais faire le tour du quartier pour ta campagne de financement. Tu veux ramasser de l'argent facilement pour ton école, ton club de cheer, ta troupe de danse, ton équipe sportive ou même pour la cause qui te tient à cœur. Grâce aux bûches de Noël de Pâtisserie Michaud, tu vas l'avoir, ton financement. Avec Willy, tu vas devenir le magnat de la bûche de Noël. Terminé les enveloppes pleines de monnaie à gérer. Maintenant, les ventes se font en ligne et tu vois tes profits en temps réel. Ça te parle? Va vite t'inscrire au pâtisseriemichaud.com. Les places sont limitées. Ensemble, on va le réaliser, ton financement.
Toiture Polaire à toiturepolaire.com, c'est trois divisions. Toiture, bien sûr, on en fait plein dans la région de Québec. Gouttière, on est le plus gros joueur. Mais là, on parle de la division construction parce qu'on se spécialise dans le revêtement extérieur. Et c'est là-dedans qu'on veut que vous nous connaissiez plus parce qu'on sait que beaucoup de maisons ont besoin d'être rafraîchies, besoin d'être rénovées, surtout pour donner un look actuel à votre maison. Ben, ça prend tout ce qu'on a besoin pour le faire, entre autres, les revêtements actuels qu'on vous propose, fibro-ciment, bois Maybach, déclin d'acier ou d'aluminium. On installe tout ça. On va également refaire toute l'étanchéité, donc toute l'enveloppe du bâtiment qui va être fait comme si c'était neuf. Qualité de main-d'œuvre exceptionnelle. On est là pour vous offrir de la qualité depuis 2006. Toiture Polaire, en ligne à toiturepolaire.com.
Quelle fierté de vous parler de l'expansion du golfe La Tempête. Le spectaculaire premier 9 trous de ce grand projet est maintenant ouvert aux membres et à leurs invités. Et la construction du nouveau parcours se continue. Faites vite, seulement quelques places sont encore disponibles en vue de l'ouverture du 36 trous. Réservez votre membership dès maintenant et profitez du tarif actuel sur le droit d'entrée. Pour tous les détails, mais surtout pour jouer et devenir membre de La Tempête, visitez golflatempête.com. On s'en va au Kazakhstan, on s'en va rejoindre notre chum JF Caron. On compte plus les fois qu'on lui parle, mais on est toujours content de lui parler parce qu'il y a plusieurs sujets à aborder. Puis en plus, depuis qu'on s'est parlé la première fois, il est arrivé des choses qui se sont ajoutées, qui là maintenant, c'est un puissant fond de discussion. JF, t'es salué, merci d'être sur Jeff Liberté. Hey, j'ai lu ton texte sur Facebook, sur ta vision de... Puis je te dirais que je partage pas mal la majorité des points que t'as amenés, donc peut-être l'expliquer aux gens... de voir que finalement, le genre de roulette russe à laquelle ils sont adonnés, les pays de l'Occidentaux à essayer de couper, je dirais, toute la business, toute l'économie de la Russie, c'est le genre de choses qui peut avoir un effet boomerang, entre autres, sur le symbole qu'est le dollar US. Est-ce que c'était une bonne mise en situation de ce que tu as parlé sur Facebook?
Oui, oui, absolument. Mais écoute, les sanctions économiques, on peut d'abord dire deux choses. La première, c'est, on en a déjà discuté, c'est l'aspect indiscriminé. C'est vraiment des sanctions qui visent là, à étouffer l'économie russe. C'est vraiment une guerre totale. Tout le monde, tous les Russes sont visés par ces sanctions-là. Puis c'est dommage parce que l'immense majorité des Russes, les citoyens russes, ont pas engagé leur responsabilité personnelle dans cette guerre-là. Puis c'est ces gens-là qui vont réellement souffrir de la dévaluation du rouble. Et puis, on le voit déjà en Russie, le coût de l'épicerie a augmenté, puis le salaire de ces gens-là, malheureusement, a pas aussi augmenté. Là. Donc, les sanctions occidentales ont eu pour effet là, d'appauvrir des gens qui n'ont pas engagé leur responsabilité personnelle dans ce conflit-là. Et puis, comme ça a aussi un impact sur la possibilité qu'a la Russie d'exporter son blé à l'étranger, ben, si ces sanctions-là perdurent encore une couple de mois, on peut s'attendre à l'automne prochain que des pays comme l'Égypte, dont 90% de leur importation de blé proviennent de la Russie et de l'Ukraine, vont faire face à une crise alimentaire de grande envergure. Là. Donc, ces sanctions-là vont aussi avoir pour conséquence de toucher des individus au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, alors qu'eux, clairement aussi, n'ont pas engagé leur responsabilité dans ce conflit-là. L'autre aspect, c'est la capacité qu'auront ces sanctions-là de peut-être mettre un terme au régime de Vladimir Poutine, je pense pas que ça va arriver pour la simple et bonne raison que les oligarques qui entourent Poutine, oui, ont vu leurs avoirs à l'étranger être gelés. Ces gens-là ont perdu leur yacht en Europe, ont été saisis. Ces gens-là sont plus en mesure de faire de transférer leur argent d'un compte bancaire à l'autre. Mais le problème, c'est ces gens-là, c'est pas des self-made men. C'est pas des gens qui ont bâti une compagnie et qui sont en train de tout perdre. Ces gens-là sont les dépositaires des compagnies publiques. C'est des amis de Vladimir Poutine qui connaît depuis 30 ans. C'est des gens qui proviennent de ce qu'on appelle la bande de Saint-Pétersbourg. Donc, ces gens-là, c'est des dépositaires des entreprises nationales russes. Donc, qui perdent personnellement 10 millions, 50 millions, 100 millions de dollars, c'est pas réellement leur argent de toute façon. Là. Donc, ces gens-là, ils vont pas réellement faire pression sur Vladimir Poutine pour qu'il mette fin à la guerre.
Ouais,
donc, sur le plan moral, puis sur le plan stratégique, il y a beaucoup de raisons de penser que ces sanctions-là vont pas avoir l'effet désiré. Ah, ce que t'as évoqué au début de l'entrevue, de la présentation, c'est la principale victime de ces sanctions-là pourrait être en fait la fin de la mainmise du dollar américain sur les échanges mondiaux de gaz et de pétrole. Parce qu'il faut retourner d'à peu près 50 ans en arrière, le grand choc pétrolier au début des années 70 a mis en place ce qu'on appelle le système des pétrodollars. Donc ça veut dire que tous les échanges pour les achats de gaz, de pétrole se font depuis 50 ans avec le dollar américain. Donc pour les Américains, ça a été ça a été exceptionnel parce que ils ont pas eu à se soucier de l'impact d'éventuels taux de change défavorables parce que les transactions se faisaient dans leur monnaie nationale. Ça a toujours assuré une demande constante et grandissante de l'or noir qui a aussi contribué à alimenter la demande pour le dollar américain. Ça a fait en sorte que les pays exportateurs de pétrole qui étaient payés en devises américaines ont aussi réinvesti une partie de cet argent-là dans l'achat de bons du Trésor aux États-Unis, ce qui a servi depuis 50 ans à financer la dette publique américaine. Donc, ce système-là est considéré comme, c'est stratégiquement parlant, c'est un élément de première importance pour la Maison-Blanche, parce qu'on peut facilement s'imaginer que si les échanges, l'achat de pétrole et de gaz commençait à se faire dans d'autres devises que le dollar américain, ben ça entraînerait inévitablement une baisse de la demande du dollar américain qui aurait des effets boule de neige sur liés à la baisse de sa valeur. Donc, les importations commenceraient à coûter plus cher. Il y aurait une baisse de la demande des bons du Trésor qui serait préjudiciable au financement de la dette. Et ça aussi, ça réduirait la dépendance des autres pays envers les États-Unis. Et puis, ça a déjà été fait il y a 20 ans. Il y a un individu qui a décidé en 2000 de cesser d'acheter du pétrole ou de vendre son pétrole plutôt en dollars américains. Puis il a dit, à partir de maintenant, je vais faire ça en euros. C'était Saddam Hussein en 2000. On sait ce qui est arrivé 3 ans plus tard. Il a été renversé après l'invasion américaine. L'Iran, en 2012, a aussi décidé de faire pareil, de vendre son pétrole en échange de yuan chinois. Immédiatement, le gouvernement américain a imposé à l'Iran des sanctions extrêmement significatives qui ont fait extrêmement mal à l'économie iranienne. Donc maintenant, si sortir de ce système-là des pétrodollars est considéré littéralement par les États-Unis comme un acte de guerre, donc la seule alternative, c'est de se faire exclure de ce système-là par les États-Unis. Et c'est exactement ce qui est arrivé à la Russie après l'invasion de l'Ukraine. Maintenant, comme la Russie s'est fait expulser de ce système-là, ben la Russie est en mesure maintenant d'échanger, de vendre son pétrole dans la devise de son choix, sans avoir à subir des sanctions de la part des États-Unis, parce que les sanctions ont déjà été imposées. La Russie est déjà expulsée de ce système-là. Qu'est-ce qui peut y arriver de pire? C'est comme un enfant à l'école qui écoute pas son professeur, ben il va se faire envoyer dans le coin, il va avoir une retenue, il va aller voir le directeur, il va être obligé de passer une journée le samedi à faire du ménage dans l'école en guise de punition. C'est quand l'enfant est toujours partie prenante du système, ben on peut le punir. Puis l'idée, c'est en le punissant, on va envoyer un message aux autres élèves pour qu'ils se comportent normalement. Puis l'idée, c'est que l'enfant récalcitrant, peut-être qu'un jour, il va finir par comprendre puis il va rentrer dans le rang. Mais si l'enfant, vous l'expulsez de l'école, ben vous avez plus de contrôle sur lui, non? Il peut commencer à faire ce qu'il veut. Donc, c'est exactement ce qui est en train d'arriver depuis le 24 février 2022. La Russie est sortie d'un système qui perdurait depuis 50 ans. Et là, la Russie a dit à l'Union européenne au début du mois d'avril, si vous voulez qu'on continue à vous approvisionner en gaz et en pétrole, vous allez commencer à nous payer dans des devises autres que la devise américaine. N'importe quoi, ça peut être en yuan, ça peut être en lingots d'or, mais vous allez cesser de nous payer en dollars américains. Puis si vous le faites pas, on va couper le gaz. Puis il faut pas oublier que l'Union européenne, 40% de sa consommation de gaz provient de la Russie. Donc si la Russie décide de couper les vannes, non? Ça va faire mal aux pays de l'Union européenne. Donc là, on
est-ce qu'ils l'ont fait jusqu'à maintenant, Jeff? Est-ce qu'ils l'ont fait, les pays européens? Est-ce qu'ils ont payé avec les devises demandées? Est-ce que c'est déjà commencé?
C'est en litige, là, parce qu'il y a des contrats qui doivent être... Il y a certains contrats qui ont déjà été honorés pour le reste de l'année. Donc là, c'est toujours en cours de négociation. Puis Vladimir Poutine, en ce moment, il fait juste utiliser cet argument-là comme menace. Mais s'il n'a pas ce qu'il veut, il est en mesure de convaincre d'autres pays, comme la Chine, le Pakistan, l'Inde, d'adhérer à ce système-là, de vendre leur pétrole en échange de roupies ou de yuan. Puis il est en mesure de réaliser qu'il est capable de maintenir l'économie russe à flot. Ben là, il n'y aura pas de scrupules à couper l'approvisionnement en gaz à l'Union européenne. Donc là, il est en train de jouer, c'est un Mexican standoff, là. Les deux duellistes, là, ils se regardent, là, puis là, la question est de savoir lequel va mettre la main sur le gun le plus rapidement possible avant l'autre, là. Mais ça se trame, et puis je serais pas surpris que ça, ça se produise au cours des prochaines semaines. Et si c'est le cas, on va assister à une dédollarisation du marché global qui touche à la principale ressource naturelle qui est transitée à travers le monde. Et malgré les gens de Greenpeace, là, l'achat de gaz et de pétrole, là, ça va continuer, ça va augmenter au cours du 21e siècle.
Ah, pourtant, pourtant pendant qu'on se parle, je vois Patrick Bonin, là, ce monsieur, que je ne sais pas quelle qualification il a là, pour parler dans les médias à peu près à tous les deux jours. Et à côté de lui, il y a des images de son ami Stephen Guilbeault. Donc, c'est un beau duo. Là, puis ça parle à la télévision avec Mario Dumont. Puis là, il nous reste 3 ans pour agir. Les changements climatiques, puis il faut couper le pétrole. Donc, ouais. J'imagine que si on se fie au GIEC et si on se fie à Patrick Bonin, puis si on se fie à Greenpeace, j'ai le feeling que le plan de Poutine ne fonctionnera pas parce que, de ce que je comprends, là, d'ici 3 ans, il n'y aura plus de pétrole. On ne devra plus utiliser de pétrole dans les pays de l'Occident. Donc, les Russes sont cuits, mon ami Jeff.
C'est pas drôle pour eux. Hein? Le seul problème, c'est quand on regarde là, les ventes de pétrole depuis les dernières années, ça ne fait qu'augmenter. Là. Et la demande ne fait qu'augmenter. Les deux principaux pays les plus énergivores de la planète, ben, c'est la Chine et l'Inde. Donc, l'Inde, c'est quoi? Un milliard des poussières. La Chine, 1,4, 1,5 milliard. On va dire 2,5 milliards de personnes. La planète en comporte 7 milliards. Et je vous laisse faire le pourcentage. Là. Ben, ces gens-là, là, ils en consomment du pétrole. Puis là, la Russie, pour être en mesure de convaincre ces pays-là d'acheter leur pétrole en devise non américaine, ils l'offrent à rabais. Ils offrent 30% de rabais. Sur leur gaz, sur leur pétrole au Pakistan, à l'Inde puis à la Chine.
Mais nous on n'est plus là. Nous on est dans l'électrique. Nous on est.
Je disais que ça fonctionnait super bien l'hiver aussi là.
Oui, ça va très très bien. Ça coupe à peu près de 50% là, donc on va rapetisser les petits bouts qu'on a à faire, puis on va faire avec là. Puis après ça, ben il y a plein d'annonces, il y a plein de compagnies d'auto là qui s'en viennent. Le seul problème, c'est que quand vous commandez un char électrique, vous attendez 2 ans, mais on s'en va là. Donc moi je pense que Poutine, son économie de pétrole, il est foutu. En tout cas, si je me fie à ce que j'entends ici, si je me fie à ce que les journalistes nous parlent, donc je souhaite la meilleure des chances à monsieur Poutine parce que ça risque de tourner au cauchemar. Peut-être qu'on a eu des bonnes années de vente, mais le passé est passé et le futur, j'ai l'impression que ce sera très difficile. Revenons à des choses un peu plus sérieuses. Pendant qu'on parle de ça, je suis à la même place que toi à 200% là-dessus. Je pense que j'ai eu cette réflexion-là, pas techniquement avec tout ce que tu as amené, là, mais au début, quand on a parlé de représailles économiques, puis je comprends là, que c'est ça ou la guerre, puis ils ne savaient pas quoi faire, puis finalement, ils ont opté pour quelque chose sur lequel ils n'ont pas trop réfléchi, puis ils risquent effectivement d'avoir, comme je disais tantôt, l'effet boomerang. Sauf que ça se finit pas, cette maudite guerre-là. Les affaires économiques n'ont pas l'air à fonctionner pantoute. Il n'y a rien qui a l'air à fonctionner. Tu as le président de l'Ukraine qui s'en va dans toi. Là, il s'en va à l'ONU. La veille, il est au Grammy. Après ça, il s'en va dans une réunion de chevaliers de colons à Seattle. Il fait le tour. Il est à TV partout. La réalité, c'est qu'on est rendu quasiment à 50 jours de guerre. On voit des images épouvantables. Et puis le pire, c'est que pour nous autres, quand on voit ces images-là, on se dit, bon, c'est-tu la vérité? Qu'est-ce que c'est au juste? Est-ce que véritablement on est en train d'assister à un génocide? Est-ce qu'on est dans la propagande? On ne sait rien. En fait, c'est la 41e journée de l'offensive russe en Ukraine, si je regarde le décompte que j'ai devant moi. Tu sais, puis il n'y a rien qui semble changer le plan de Poutine.
Non, ben là, il a réorienté son offensive de manière moins globale. Là, maintenant, son offensive, c'est uniquement dans l'est du pays. Il a vu trop gros, puis l'armée russe n'avait pas la logistique, les capacités de mener une guerre sur plusieurs fronts comme ça. Donc là, il se concentre sur le Donbass, la Crimée. Son objectif, c'est minimalement d'être en mesure de lier la Crimée au Donbass, ce qui est à peu près terminé, mis à part là, la prise finale de la ville de Mariupol. Puis le scénario le plus optimiste pour le Kremlin, c'est d'être capable de conquérir tous les territoires ukrainiens à l'est du fleuve Dnieper qui coupe le pays en deux.
Jerry, ce que j'avais annoncé le jour 1 de la guerre.
Exactement.
J'avais dit, à part la ville de Kiev qui est séparée en deux par ce fleuve-là, on va s'arranger pour que Kiev soit au complet à l'ouest, mais une fois qu'on aurait fait cette bulle-là pour Kiev, tout le reste, ça va être l'Est au complet qui va passer aux Russes.
Puis l'Est de l'Ukraine, la région du Donbass, juste comme ça, il y a 1,2 trillion de mètres cubes de gaz de schiste dans cette région-là. Mmh. C'est la troisième réserve d'Europe. Donc, peut-être que Vladimir Poutine a aussi, stratégiquement parlant, l'intention de mettre la main sur cette ressource naturelle-là qui, malgré ce que peuvent en dire les gens de Greenpeace, va devenir très, très en demande au cours des prochaines années. Mais ceci étant dit, il ne faut pas oublier une chose. Il y a une firme de sondage en Russie qui est considérée comme indépendante, qui n'est pas financée par le Kremlin. Donc, c'est eux qui ont fort probablement les données les plus objectives, les plus crédibles. Puis, ils ont publié leur sondage mensuel il y a quelques jours. Et puis, depuis le début de l'offensive, la cote de popularité de Poutine a explosé, est rendue à presque 80% de taux d'approbation. La haine envers les États-Unis puis l'Europe a aussi augmenté. Donc, s'il faut en croire les données de ce sondage-là du Centre Levada, la population russe semble appuyer de façon très massive les actions de son président. Donc, de là à croire que les sanctions vont entraîner la population russe à renverser le régime, en tout cas, s'il faut suivre sur ces données-là, c'est pas le cas, c'est pas à veille d'arriver. Maintenant, le massacre de Boutcha. Là, avant d'aller plus loin, je veux juste là être très clair avec... je sais que vous avez une couple de haters là qui adorent vous écouter puis mettre ce que vous dites sur Twitter ou sur la clique du plateau. Je veux être extrêmement clair ici, là, puis je veux pas me faire accuser là, de propager la propagande du Kremlin par rapport au massacre là, qui a été découvert il y a quelques jours. Sur le plan des preuves circonstancielles, tout semble accuser la Russie. Les troupes russes étaient dans une ville et lorsqu'ils ont quitté la ville, une heure plus tard, les troupes ukrainiennes ont pénétré dans la ville puis il y avait des cadavres partout. Donc, on s'entend, sur le plan circonstanciel, là, tout semble indiquer que c'est l'armée russe qui a tué ces personnes-là. Bon, ouais. Je le dis, puis faut que ce soit clair. Ceci étant dit, dans ce massacre-là, je trouve que ce massacre-là ne cadre pas dans le pattern conventionnel d'un crime de guerre. Parce que dans le passé, je vais vous donner des exemples, les gens qui ont commis des crimes de guerre ont toujours cherché à masquer leurs crimes. Ils n'ont jamais laissé des 400, 500 cadavres avec des balles dans la tête partout au milieu du village, au milieu de la rue. Ils n'ont jamais fait ça. Les nazis, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, lorsque les troupes soviétiques approchaient des camps d'extermination, ils ont tout dynamité. Ils ont dynamité les chambres à gaz, les fours crématoires. Ils n'ont pas laissé de preuves derrière eux. Les Soviétiques, en 1939, lorsqu'ils ont attaqué la Pologne, ils ont capturé de 4 à 5 000 officiers polonais qui ont été exécutés l'année suivante dans la forêt de Katyn, une forêt au milieu de nulle part. Ils ont été assassinés d'une balle dans la tête et les cadavres ont été soigneusement enterrés de façon à ce qu'ils soient jamais découverts. Le problème, c'est que les Allemands, l'année d'après, ont découvert les cadavres. Puis là, pendant 50 ans, il y a eu un grand débat entre les historiens qui était véritablement responsable du massacre. Et ça a été admis en 1991 par Boris Eltsine que c'était effectivement les troupes soviétiques qui avaient exécuté les officiers polonais. Mais le crime a été bien masqué. Oui. Le massacre de Srebrenica en Bosnie-Herzégovine au milieu des années 90, les civils ont été amenés en autobus dans les montagnes loin des caméras, là où ils ont été assassinés, les cadavres ont été enterrés immédiatement. Et pour s'assurer que les chauffeurs d'autobus, les gens qui transportaient les victimes dans la montagne, ne parlent pas, ces gens-là étaient obligés d'assassiner au moins un civil bosniaque de manière à acheter leur silence. Oui. Et encore aujourd'hui, on continue à trouver des squelettes, des corps autour de Srebrenica. Donc, crime de guerre, l'idée, c'était de ne pas laisser de traces, de cacher le crime. Dernier exemple, massacre d'Adita en Irak en 2005. Des soldats américains ont massacré à peu près 2 douzaines de civils irakiens. Et dans la cour martiale, le procès qui a suivi, le soldat qui est en charge de cette opération-là a dit à ses subordonnés, les boys, voici ce qu'on dit maintenant si on se fait questionner, c'est on a tiré sur des insurgés irakiens, on n'a pas assassiné des civils. C'est immédiatement l'idée, c'est on doit masquer notre crime. Toujours. Or, moi, j'ai de la difficulté à m'imaginer pourquoi les Russes, qui étaient en repli, là, ils quittaient la ville, pourquoi les troupes russes auraient sciemment laissé derrière eux des preuves aussi irréfutables de leur culpabilité. Je trouve ça, ça cadre juste pas dans le pattern d'un crime de guerre conventionnel. Moi, j'arrive pas à m'expliquer ça. Puis l'autre chose que j'arrive pas à m'expliquer, c'est vous avez des gens, ce que je lis dans les journaux, des vieilles dames qui racontent ce qui s'est passé. J'ai vu 5 individus qui ont été obligés de mettre leur t-shirt, de relever leur t-shirt, et puis un soldat russe leur a tiré une balle dans la tête. Mais encore une fois, lorsqu'on commet ces crimes-là, on ne laisse pas de témoins derrière nous. Des gens qui peuvent non seulement témoigner du crime, mais aussi identifier personnellement les soldats qui ont tiré des balles. Bref, il va falloir qu'il y ait une véritable enquête internationale, une analyse d'une équipe médico-légale qui va véritablement être en mesure d'analyser la situation, d'analyser les corps, voir est-ce que la balle dans la tête a été la cause de la mort ou la balle dans la tête a été tirée post-mortem, de quelle façon ces individus-là ont été tués, à quel moment ils ont été tués et au moment où ils ont été tués, quelle était la situation? Est-ce que les troupes russes étaient toujours dans la ville? Est-ce qu'elles avaient quitté la ville? Quelles étaient les troupes russes aussi qui étaient sur place? Quelles ont été les premières troupes ukrainiennes à pénétrer dans la ville? Bref, toutes ces questions-là vont devoir être... Il va falloir qu'on fasse la lumière sur toutes ces questions-là avant là, de véritablement être en mesure de porter des accusations contre l'un ou l'autre. Parce que faut pas oublier, depuis un mois, ce qui est vraiment évident, c'est que les deux parties impliquées sont dans une guerre de l'information, une guerre de la désinformation. Et puis, je trouverais ça extrêmement malheureux qu'on utilise... ce crime potentiel-là pour essayer de convaincre le reste de l'Occident de s'engager là, militairement dans ce conflit-là. Là. Parce qu'en tout cas, si c'est l'objectif, ça fonctionne en mot à dit, parce que les gens en Pologne, dans les pays baltes, maintenant, suite à ce massacre-là, exigent une intervention militaire de l'OTAN. Puis là, si c'est le cas, ben on sait ce qui va arriver.
Mais les médias aussi, les médias, autant de gauche que de droite, là, utilisent... Là, on est sur les images satellites qui nous montrent que finalement, ce que les Russes ont dit là-dessus, c'est contredit, etc. Donc là, il y a un genre de get-together entre la gauche et les républicains, les démocrates, peu importe de quel côté vous êtes. Là, on semble de vouloir de plus en plus qu'il y ait une intervention armée. Et veut pas, les médias étant tous du même avis, je regarde les sondages, même aux États-Unis, de plus en plus de gens sont pourtant eux qui voulaient plus qu'on envoie des militaires américains faire des interventions dans des guerres qui nous concernent, que concernent pas entre guillemets. Là. Et là, il semble y avoir une volonté plus grande par rapport au début de la guerre. Donc, si jamais c'est utilisé à ces fins-là, ça fonctionne.
Ça fonctionne parce que là, les gens, là, c'est le méchant russe et puis n'importe qui ose affirmer quelque chose qui diffère là, le moindrement de la doxa dominante, là, puis j'en ai été victime, là, se fait accuser de « t'es un propagandiste du Kremlin, on le sait bien, t'es au Kazakhstan, t'as un parti pris ». Tu sais, on est rendu à un stade où essayer d'analyser de manière objective, puis froidement, puis rationnelle une situation, vous place immédiatement dans les souliers du suspect potentiel. Là.
Mais ça n'a jamais fonctionné, ça.
On en est rendu là. Non?
Mais ça n'a jamais fonctionné.
On en est rendu
ça n'a jamais fonctionné, JF, de dire... on veut regarder froidement, puis on veut regarder les faits, et uniquement les faits. On est dans une époque d'émotion, et les faits, la vérité, puis on n'est pas en train de dire que ce n'est pas la vérité. C'est juste que c'est le genre de choses qui peuvent amener... une guerre sans fin. Donc, avant d'aller là, OK, et avant de tomber dans une réaction qui est trop émotive sur des images qui font mal, il faut absolument aller au fond des choses et savoir si tout ça est vrai à 100%. Parce que si on se lance dans une guerre suite à ces images, suite, comme on le dit, si ça s'est passé, bien écoute, on prendra la décision comme telle qu'on le pense, on prendra la décision qu'il va falloir prendre. Mais si jamais... on se rend compte, après 10 ans de guerre, que finalement, les images qui sont à l'origine de cette guerre qui ne finit plus mais que finalement, ça avait été pognassé et un peu arrangé pour provoquer ce que nous on est en train de vivre, on s'en voudrait pour la fin des temps. Donc, c'est juste normal et intelligent de le faire.
Oui, puis une guerre contre la Russie, ça implique peut-être l'utilisation d'armes nucléaires. Dans 10 ans, il n'y aura peut-être même pas 10 ans. Là. On n'aura peut-être même pas l'occasion de se poser la question. Mais tu sais, peut-être une hypothèse, c'est lorsque les troupes russes ont pénétré dans la ville, il y a eu des combats. Puis les images satellites là, du 9, 10, 11 mars montrent 10 ou 11 cadavres dans la rue qui auraient été retrouvés exactement au même endroit il y a quelques jours. Bon, mais et puis à proximité de ces cadavres-là, il y a des éclats d'obus, il y a des cratères d'obus. Donc, la question que je me pose et qu'on doit légitimement se poser, c'est ces personnes-là, est-ce qu'elles ont malheureusement été prises en deux feux et ça a été des dommages collatéral de combat entre les forces armées ukrainiennes puis les forces armées russes. Bon, ça, c'est malheureusement, c'est des choses qui peuvent arriver, qui ont toujours arrivé et qui vont encore se produire dans l'avenir. Lorsque des troupes se combattent dans une région urbaine, dans une zone urbaine, il y a des civils, puis il y a toujours des civils qui sont pris entre deux feux. Est-ce que ces gens-là ont été tués de cette façon-là? Si c'est le cas, c'est pas un crime de guerre. S'il n'y avait pas d'intention malicieuse de la part des uns ou des autres de tuer ces gens-là, c'est malheureusement la triste réalité de la guerre. Et puis,
c'est bon, ça.
On passe à autre chose. Mais entre ces 10 ou 11 cadavres identifiés il y a 3 semaines par les images satellites, c'est une chose. Mais là, on parle de 400-500 cadavres qui ont été trouvés dans la ville depuis. La question, c'est ben ces personnes-là ont été tuées quand? Et comment, mais il y a juste une équipe médico-légale qui peut faire la lumière sur cette situation-là. Puis là, je comprends, c'est des images dégueulasses, mais faut faire attention pour pas prendre des décisions qui sont basées entièrement sur la réaction émotive, puis la haine de Vladimir le Terrible. Puis l'autre chose aussi qu'il faut ajouter, c'est il y a deux types de crimes de guerre, là. Et en fonction de l'un ou de l'autre, ça n'a pas le même impact sur la responsabilité des gouvernements. Donc, par exemple, vous avez ce qu'on appelle des crimes institutionnels. Donc, si par exemple vous avez Vladimir Poutine, puis le général en chef de l'armée, puis les commandants des unités qui disent explicitement à leurs soldats, les civils ukrainiens, vous les abattez. Les prisonniers de guerre ukrainiens, vous leur tirez une balle dans la tête. Si c'est le cas, là, ben, on a affaire ici à un crime institutionnel. Si le crime est institutionnalisé au sein de l'armée, de la machine russe, et ça, c'est extrêmement problématique. Mais vous avez aussi des crimes isolés qui sont commis par une poignée de soldats qui ont peut-être consommé trop d'alcool, qui ont peut-être vu un de leurs camarades se faire tuer 10 minutes avant par une frappe de drone et qui sont dans une colère noire et qui décident d'abattre des civils comme ça sans raison. Ça s'est produit dans le passé et ça va encore se produire dans l'avenir. Mais si vous avez affaire à un crime de guerre isolé, ben ça n'engage pas la responsabilité de tous les soldats de l'armée russe ni de Vladimir Poutine, non. Donc, s'il y a effectivement eu crime de guerre de la part de la Russie, de quel genre de crime est-ce qu'on parle? Un crime institutionnel ou un crime isolé de la part d'une poignée de soldats, d'une unité qui a peut-être consommé trop de vodka et avant de se retirer de la ville et qui ont décidé de commettre ce crime odieux-là? Ben, si c'est le deuxième cas, ben, ça ne nécessite pas là, d'entrer dans une guerre généralisée contre la Russie. Parce que je ferai remarquer qu'il y a aussi des images très troublantes de soldats ukrainiens qui ont tiré dans les jambes de prisonniers de guerre russes. Là. Donc, ça semble être un crime de guerre isolé de la part d'une poignée de soldats ukrainiens qui, par vengeance, ont décidé de commettre ce crime-là. Donc,
Mais dans l'opinion publique, ça n'a pas le même impact.
L'émotion, la haine du Russe, puis et là c'est peu importe ce que la Russie va dire, peu importe ce que la Russie va faire, c'est des mensonges, c'est odieux, c'est des gens dégueulasses. Là, on est rendu à un stade où ça devient extrêmement difficile d'avoir des discussions. Moi, j'ai des amis là. J'ai publié un texte sur Facebook il y a quelques semaines. Je crois que c'était sur l'impact des sanctions économiques. Puis les commentaires que j'ai, c'est « Ouais, mais qu'est-ce que tu fais des crimes de guerre de l'armée russe en Ukraine? » Je fais « Mais écoute, le texte porte sur les sanctions économiques. Puis les sanctions économiques qui ont été mises en place par l'Occident, comme je le disais tout à l'heure, vont peut-être amener une crise alimentaire de grande envergure dans quelques mois. Je pense qu'on peut le dire. Ceci étant dit, le texte porte sur les sanctions économiques. Le texte ne porte pas sur les crimes de guerre de l'armée russe.
Non, mais les gens mélangent tout.
Mais là, c'est, je veux dire, dès qu'on essaie de comme je disais, d'analyser d'une façon un petit peu plus objective, puis de se projeter dans l'avenir, puis essayer de voir quelles pourraient être les conséquences à long terme qui pourraient toucher des gens un peu partout à travers le monde à cause de cette guerre-là, de ces sanctions-là, immédiatement, c'est propagandiste du Kremlin, puis le FSB te paye combien pour dire ces choses-là. Tu sais, c'est à un moment donné, tu te dis, ça vaut-tu la peine?
On n'est plus capable de se parler. C'est triste, on n'est plus capable de se parler. C'est triste, comme ça se peut.
Mais Jean-François, je m'en vais dans une autre direction, là, parce que je lis des textes, je lis beaucoup d'affaires là-dessus, puis il y a une date qui revient souvent, Jean-François, on parle du 9 mai. Le 9 mai, c'est une date importante pour les Russes. Le 9 mai, possiblement que les deux républiques là, séparatistes, là, le Donbass, puis certaines régions, seraient sous contrôle russe. C'est comme si, je vais dire dans mes mots, c'est comme s'il y avait un job à faire d'ici le 9 mai. Mais le fameux 9 mai, c'est une date qui veut dire quelque chose pour les Russes. C'est la fin. C'est là que le Troisième Reich, c'est l'histoire de la Deuxième Guerre. Là. Donc, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le Reich qui est tombé. Puis on dirait qu'il y a tout ce mélange-là, okay, toute cette espèce de bordel-là. On dirait s'il y a encore des relents, justement, de la Deuxième Guerre mondiale qui coulent à travers tout ça.
Ah oui. Ben, c'est vrai, le 9 mai, c'est célébré au Kazakhstan dans toutes les anciennes républiques soviétiques, oui. Par ailleurs. Puis c'est ce qu'on appelle aussi la journée de l'homme. C'est la journée du combattant. Okay. Donc, moi, cette journée-là, c'est la seule journée de l'année où je cuisine pas puis je lave pas la vaisselle. Tu sais, c'est vraiment, c'est okay. Pas devant la télévision, regarde ce que tu veux, puis qu'est-ce que tu veux boire, qu'est-ce que tu veux manger, tu sais, c'est vraiment ça. Parce que c'est, en anglais, c'est la journée du Defender of the Motherland. Donc, le défenseur de la mère patrie. Donc, oui. C'est la journée de l'homme, alors que le 8 mars, c'est la journée internationale de la femme. Donc, voilà. Puis le 9 mai, partout dans les ex-républiques de l'Union soviétique, il y a toujours d'immenses parades militaires où on déploie là, les chars d'assaut. Puis les quelques anciens combattants qui sont encore en vie sont célébrés comme des héros. Là. Moi, je me souviens, j'avais visité Saint-Pétersbourg. C'était en mai 2008, je me souviendrai toujours, il y avait un vieil homme qui se promenait avec toutes ses médailles, tu sais, des anciens soldats soviétiques, là, bardés de médailles. Puis les gens, là, des gens de 20 ans, de 50 ans, qui s'arrêtaient dans la rue pour lui serrer la main puis lui dire « Merci, monsieur, de ce que vous avez fait pour notre liberté. Pour, vous avez fait en sorte qu'on ne tombe pas sous le joug du nazisme et des vilains fascistes. » Donc, c'est vraiment là, les anciens combattants, les quelques anciens combattants qui sont encore en vie aujourd'hui, ils sont célébrés là, vraiment comme des héros. Et ce sont des héros, d'ailleurs. Et vous allez voir à Moscou, sur la Place Rouge, il va y avoir, comme à chaque année, un immense défilé militaire. Ça va être la même chose, fort probablement, à Luhansk, à Donetsk, de plus petite envergure. Mais c'est la plus grosse journée de l'année. Oui. Dans les anciennes républiques soviétiques. Donc là, je le dis déjà d'avance, vous allez des journalistes qui, quand ça va se produire le 9 mai, vont dire « Bon, c'est ça, Vladimir Poutine là, qui décide de faire un gros show de boucan pour montrer la puissance de son armée, puis dans le contexte actuel, c'est dégueulasse. » Non, mais ça fait depuis 1945 que vous avez ce défilé-là sur la Place Rouge, sans interruption, même pendant la pandémie, là, il y a quand même eu ce grand défilé-là qui dure presque une heure, là. Et là, à la toute fin, ben évidemment, vous avez les missiles nucléaires là, qui sont déposés sur un camion. Puis c'est ce qui clôture le défilé. Et vous avez eu pour le 50e anniversaire de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, vous avez eu des troupes étrangères qui ont paradé en compagnie des troupes russes. Il y avait une unité française, américaine, britannique, indienne. Donc, c'est pas dans le passé, vous avez eu beaucoup là, d'unités étrangères qui ont été invitées aussi à parader sur la place rouge. Puis, elles ont toujours fait ça de bon cœur parce que pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Soviétiques, c'était nos alliés.
Oui. Mais pour faire suite à ça, ce fameux 9 mai-là, si les Russes, leur avancement qu'ils font présentement, on sait que le Donbass, là, on est une question de jours, je pense, avant que... ça va brosser, là. Ça va brosser encore plus, là. Mais est-ce que ça pourrait, puis je le dis, là, est-ce que ça pourrait se terminer le 9 mai? Dans le sens que on l'a pris ce qu'on voulait apprendre, on a pris ce qu'on voulait prendre, puis c'est comme la conclusion d'une guerre... Du chamaillage qu'il y a dans cette région-là, le Donbass depuis 2014, je ne sais pas trop quoi. Ils ont de conclusion pour dire, regardez là, c'est fini. Puis il y a une genre de date symbolique. Est-ce qu'on peut croire ça?
Bon, ça pourrait, mais le problème, c'est qu'en ce moment, là, les troupes russes sont en train de se redéployer de la région du nord de l'Ukraine, la région de Kiev, pour aller se redéployer vers l'est du pays. Puis là, vraiment, en ce moment, là, c'est le dégel, c'est vraiment le printemps là, dans la région. Donc, tout est boueux. Puis quand on parle de boue, là, c'est de la grosse bouette épaisse. Donc, les chars d'assaut, les pièces d'artillerie là, vont s'embourber à l'heure actuelle si elles sont déployées là, dans cette région-là. Donc, moi, je m'attends peut-être au cours des deux prochaines semaines à ce qui se passe pas grand-chose. Tant du côté des Ukrainiens que des Russes, qui vont être obligés d'attendre que le sol devienne un petit peu moins boueux, se stabilise pour pouvoir reprendre la contre-offensive ou l'offensive. Mais moi, je pense pas que cette guerre-là peut continuer encore des mois et des mois, parce que l'armée russe a subi des pertes extrêmement importantes dans sa tentative infructueuse de pouvoir prendre Kiev. On parle d'à peu près 15 000 soldats qui auraient été tués, ça c'est sans parler des blessés, des prisonniers de guerre, des avions qui ont été abattus, des hélicoptères qui ont été abattus, des chars d'assaut qui ont été détruits ou abandonnés tout simplement parce qu'ils étaient tombés en panne. Ça se compte par centaines et par plusieurs centaines. Donc, les capacités opérationnelles de l'armée russe sont, j'ai l'impression qu'elles sont grandement hypothéquées à l'heure actuelle, puis leur capacité de pouvoir s'enliser dans une guerre qui pourrait perdurer encore des mois et des mois, ça me semble un peu illusoire. Donc, oui, dans cette perspective-là, une espèce de dernière offensive éclair pour être capable de mettre un terme au conflit, de tout finaliser pour le début mai, et pas, c'est pas à exclure. Et moi, je pense qu'on est plus près de la paix qu'on le pense, parce que il y a une autre chose ici qu'on doit considérer du côté des Ukrainiens.
Oui.
Zelensky, là, il y a plus de 4 millions d'Ukrainiens qui ont trouvé refuge à l'étranger. Puis en ce moment, là, c'est une immigration temporaire, là. Mais si la guerre, imaginez que la guerre perdure encore un an, deux ans, ben ces gens-là, là, pendant toute cette période de temps-là, puis il y en a d'autres là, qui vont s'ajouter à la liste, là. Ces gens-là, oui. Ils vont s'installer lentement mais sûrement dans des pays en Europe, au Canada, aux États-Unis. Ils vont se marier, ils vont se trouver un emploi, puis ils ne voudront pas nécessairement retourner vivre en Ukraine, là. Donc, aussi, Zelensky doit penser à l'avenir. Dans un an ou dans deux ans, il y a 10 millions de sa population qui est partie en exil sur une population de près 45 millions. Il en reste juste 35 millions. Si une partie de l'Ukraine est partitionnée, ben, il va perdre une autre partie de sa population. Donc, oui. Au final, là, Zelensky, là, s'il veut mener une guerre d'usure pendant un an, deux ans, trois ans, au final, il va se retrouver le dirigeant d'une coquille vide. Il n'y aura plus personne qui va vivre sur son territoire. Puis une fois que la paix va être instituée, va être instaurée, il n'y aura plus personne pour rebâtir le pays. Puis ça va. Donc, il va être le dirigeant d'une coquille vide. Puis il y a fort à parier que les millions d'Ukrainiens, de la diaspora ukrainienne qui aura fui le pays pendant la guerre, ne seront pas intéressés à revenir vivre dans un pays entièrement détruit.
Ça va se passer.
Ou, ouais. Avant leur départ, il ne faut pas l'oublier, là, le revenu moyen en Ukraine, c'est 500 euros par mois, là. Ces gens-là, dans un an, là, ils vont se trouver des emplois en Europe. Ils vont faire 2000 euros par mois. Ils vont apprécier, évidemment, le mode de vie européen.
Oui, c'est ça.
Ils vont trouver mari ou femme. Ils ne vont pas retourner en Ukraine. Là. Donc, Zelensky, c'est aussi dans son intérêt là, de mettre un terme au conflit le plus rapidement possible pour mettre un terme à cette hémorragie démographique qui mine le développement futur de son pays. Tant et si bien que beaucoup de personnes qui se disent, en fait, c'est peut-être ça la stratégie de Vladimir Poutine. pas nécessairement de conquérir l'Ukraine, mais de détruire l'Ukraine dans le sens où la guerre ferait fuir sa population et que la nation ukrainienne ne serait plus concentrée territorialement sur un espace spécifique, mais serait réparti, éparpillé un peu partout dans le monde, là. Une espèce de diaspora juive. Est-ce qu'il y a des gens qui disent, en fait, c'est peut-être ça, ou si une partie de la stratégie de Vladimir Poutine fait en sorte que les Ukrainiens fuient leur territoire national, aillent s'installer ailleurs, et puis lentement, ouais, mais sûrement, perdent leur langue, leur culture. Puis à terme, ben, ça fait en sorte que la nation ukrainienne en viendrait tout simplement à disparaître. Et c'est un petit peu ce qu'il a dit au mois de février, quelques jours avant de déclencher sa guerre, là, c'était d'éradiquer la nation ukrainienne. Donc, si la guerre se poursuit pour encore un an, deux ans, trois ans, c'est ce qui va arriver, parce que la nation ukrainienne va être éparpillée un peu partout dans le monde, là. Puis on sait très bien ce qui arrive avec des immigrants. Lentement mais sûrement, ça perd leur langue, ça perd leurs coutumes, ça s'assimile, puis ça disparaît. Donc, il y a ça aussi à considérer. Donc, de part et d'autre, Vladimir Poutine n'a pas les capacités opérationnelles, à mon avis, de s'enliser dans une guerre pour encore plusieurs mois, plusieurs années. Puis c'est la même chose pour Zelensky, là. Et je pense qu'on est plus près d'une paix qu'autre chose. Et là, la question de savoir quels vont être les éléments de cette paix-là, là. Qu'est-ce que les Russes vont être prêts à faire comme concession? Qu'est-ce que les Ukrainiens vont devoir faire aussi comme concession? Et là, c'est en train de se dessiner lentement, mais sûrement, des négociations qui ont lieu en Turquie. Et puis, selon le médiateur turc, il y a quelques jours à peine, selon lui, ils étaient proches, là, d'une rencontre au sommet entre Zelensky lui-même et Vladimir Poutine pour finaliser les derniers détails. Donc, les choses auraient évolué depuis, mais bref, il y a quelques jours, on semblait être près d'une paix dans la région, là. Et qui va devoir survenir, ça c'est inévitable. Et dans toute paix, à peu près toutes les paix, là, qui ont été faites dans le passé, les gens sont obligés de faire un choix entre la paix et la justice. À un moment donné, les gens, là, pour s'assurer qu'il y a une paix durable, il faut oublier certaines atrocités qui ont été commises pendant le conflit. Et ça, c'est le prix de la paix, l'oubli des injustices. Je donne un exemple, les accords de Dayton en 1995 pour mettre fin au conflit en Bosnie-Herzégovine. Une des parties prenantes de cet accord-là, c'était Slobodan Milosevic. Slobodan Milosevic, qui était à l'époque soupçonné d'avoir participé, d'avoir été impliqué dans les massacres de civils bosniaques à Srebrenica, puis dans d'autres villes de Bosnie-Herzégovine. Mais pour mettre un terme à la guerre, on avait besoin de sa signature sur le document. Puis évidemment, en échange de sa signature, c'était pas bon, mais Slobodan, une fois que tu vas avoir signé la paix, on va t'envoyer directement dans un vol de KLM, puis tu vas être jugé à La Haye pour tes crimes de guerre. Non, la deal, c'était, tu signes la paix, puis on va oublier ce qui s'est passé au cours des trois dernières années. Mmh. Et ça, faut déjà se mettre ça en tête, ça risque fort bien d'arriver. Le prix de la paix va probablement devoir passer par l'oubli de certains crimes qui auront été commis pendant ce conflit-là. Je sais, ça semble absolument odieux de dire ça, mais les paix dans le passé, la plupart des paix dans le passé, se sont terminées de cette façon-là. Oui, la paix, oui, et la justice ne sont pas des notions compatibles. Ce sont des notions qui sont en opposition l'une avec l'autre. Puis ça, il faut le comprendre tout de suite avant, là, de faire un choc, là, puis de faire des crises de bacon dans une couple de semaines ou dans quelques mois, quand la paix va être ratifiée, puis les gens vont réaliser, ils vont se dire, bon, ben là, Vladimir Poutine est encore au pouvoir. Puis là, les soldats russes qui ont tué ces civils-là dans la ville de Boutcha en Ukraine, qu'est-ce qui leur arrive, là? Il est où le procès, là? Comment ça, il se passe rien? C'est fort probablement ça qui va se produire, là. Puis faut pas en être surpris, là.
Mais comment ça se passe chez vous, GF? Parce qu'on s'est parlé au début de comment va la vie. Bon, j'imagine que vous autres êtes un peu comme pogné entre l'arbre et l'écorce, là, veut pas. Tout le monde souhaite la paix sur Terre. On est toujours mieux. Tu nous avais parlé de le salaire de ta blonde qui avait pris une débarque, vos avoirs également suite à au fait que les différentes monnaies ont été, bon, en tout cas, ont été shakées par cette guerre-là. Mais dans la vie de tous les jours, là, depuis qu'on s'en est parlé il y a 40 jours, comment les gens du Kazakhstan, comment les gens réagissent? Est-ce que le monde est changé? Est-ce que vous avez une vie normale? Raconte un peu comment ça se passe dans ton coin.
Oui, la vie est normale, à part le prix du panier d'épicerie qui a vraiment explosé depuis un mois, là. Moi, avant le début du conflit, je mettais de côté par mois 400 000 tengés, qui était à peu près pour l'épicerie du mois, c'était à peu près 1000 $ d'épicerie par mois. Et puis là, je suis obligé de laisser de côté 700 000 tengue, à peu près 1500 $ pour acheter exactement les mêmes produits, là. Ça, c'est l'impact direct des sanctions économiques, là, parce que notre devise, le tengue, est tellement lié à l'économie russe que quand l'économie russe attrape la grippe, ben nous, on attrape un rhume, là. Et puis ça, on l'a senti, on le sent. On peut très bien. Imaginez-vous, là, tu sais, le prix de votre panier d'épicerie là, augmente de 50%, puis votre salaire n'augmente pas en conséquence, là. Donc, c'est ce que les gens se disent en ce moment, là. Puis c'est. Comment est-ce qu'on va faire pour joindre les deux bouts? Puis moi, il y a des employés de l'université qui, il y en a deux dans le dernier mois qui m'ont approché pour me demander là, de leur faire un prêt. Là. Parce que ces gens-là, ils sont à côté. Là. Ils étaient déjà à côté avant cette guerre-là. Puis là, ben, ils sont dans une situation désespérée. Parce qu'ici, là, le principe de la faillite personnelle, ça n'existe pas, là. Fait que quand la banque là, vous téléphone puis deux, trois fois par jour, puis commence à vous pourchasser pour que vous remboursiez votre prêt, là, vous n'avez pas de sortie de secours. Là. La faillite, c'est pas une option. Là. Donc, des gens doivent prendre des prêts comme ça, hein, puis réhypothéquer leur maison, vendre leur voiture. Puis, la situation est quand même pas facile. Là. Mais la bonne chose, c'est que ça a déjà été le cas au moins depuis plusieurs mois déjà. La vie a repris le cours normal des choses. Le masque, vous, c'est chez vous, là, c'est un gros débat, là, mais nous, depuis plusieurs mois, c'est même plus un sujet de discussion. Puis là, ben, le printemps, aujourd'hui, il faisait 16 degrés, il faisait super beau. Puis là, les gens recommencent à sortir, les terrasses vont réouvrir bientôt. Fait que la vie sociale, après le long hiver dans la steppe, là, va se terminer, la vie sociale va reprendre, et puis là, les gens, au moins, il y a cet aspect-là qui les rend optimistes, puis ça fait du bien à tout le monde, là. Ça nous permet là, d'oublier un petit peu les impacts de cette guerre-là, là. Mais ça reste problématique, puis le problème aussi, ben, c'est les vols, parce que les vols qui passent au-dessus qui viennent de l'Union européenne peuvent plus survoler l'Ukraine, ne survolent plus la Biélorussie ou la Russie. Donc là, ça devient un petit peu difficile de se déplacer à l'extérieur. Les options sont limitées. Ma mère, elle devait venir nous rendre visite cet été. Et puis lorsqu'elle est allée hier à une agence de voyage pour s'informer, elle s'est fait dire il n'y a pas de vol entre Québec et Astana. Je peux vous envoyer jusqu'à Istanbul, mais à partir d'Istanbul, je peux plus rien faire pour vous, là. Donc, il y a cet aspect-là aussi que j'ai réalisé hier, là. On se retrouve un petit peu coupé du reste du monde. Mais c'est pas grave parce que les coutumes traditionnelles kazakhs qui nous permettent, là, de rire puis d'avoir du fun. Là, j'en parlais à Mr. White.
Ouais, mais parle-moi de ça un peu, voir, parce que là, veux pas, avec le temps, ben toi, t'es incrusté, là. T'es pas un quelqu'un qui arrive, un expat, puis qui arrive avec sa femme du Québec, puis qui s'installe là-bas. Donc, t'es dans ta belle famille, t'as une famille kazakh. Donc, tu vis pour la vraie vie. Qu'est-ce que tu découvres? On a parlé de la bouffe, on a parlé d'un paquet d'affaires, mais qu'est-ce que tu découvres là-bas qui des choses que tu voyais pas dans les premières semaines, les premiers mois, puis que maintenant tu vois qui nous montre que finalement on n'est pas au Québec, là.
J'en ai trois bonnes à vous raconter, là. Je garde la meilleure pour la fin. Ici, il y a des coutumes païennes. T'sais, ici, là, sur papier, 75% de la population, 75-80% de la population est musulmane, mais dans les faits, héritage soviétique oblige, les gens sont très laïcs. Mais ça ne veut pas dire que les gens n'ont pas des croyances auxquelles ils croient réellement, là. Mais c'est des croyances païennes, puis les gens, t'as comme une base de la croyance, puis les gens sont comme libres là, de l'interpréter d'une façon un petit peu unique, là. En tout cas, trois croyances qui sont extrêmement importantes, puis faut pas en rire, là. C'est vraiment sérieux, tu sais. Moi, quand je suis arrivé ici, puis j'ai été confronté à ces croyances-là pour la première fois, j'avais le sourire d'en face, puis j'ai réalisé que c'était pas une bonne chose, là, parce que c'est des croyances sincères pour eux. Donc, ici, lorsqu'un enfant naît, il faut pas le montrer à qui que ce soit pendant les 40 premiers jours. On peut pas faire ça.
OK.
Mm. Ça va, parce que si on fait ça, le mauvais œil, le mauvais sort, le mauvais œil va se jeter sur lui, puis il va tomber malade, puis mourir. Okay? Donc, lorsque les gens, après 40 jours, voient l'enfant pour la première fois, ils crachent trois fois à terre. Puis là, tu fais, tu sais, la première fois, tu fais, OK, t'es dans ma maison, puis tu viens te cracher trois fois à terre, c'est un peu dégueulasse, là, tu sais. Puis mais tu réalises, ils font ça parce que, c'est comme pour ça. S'ils ont la langue fourchue, puis ils ont des mauvaises intentions, ils vont s'en débarrasser. Puis ensuite, s'ils disent, oh, ton enfant est tellement beau, puis c'est sincère. Donc, ils ne jettent pas un mauvais sort. Parce que tous les arrière-pensées mesquines ou quoi que ce soit, là, ils s'en sont débarrassés en crachant trois fois à terre. Mais tu sais, la première fois, tu fais, OK, c'est spécial, mais bon, une fois que tu te le fais expliquer, tu fais, OK. Bon. L'autre chose aussi, lorsque, encore toujours lié au mauvais sort, au mauvais œil, lorsque des enfants font des crises, des cauchemars, c'est ma conjointe qui a fait ça une fois, je la vois, elle a liché trois fois le front de notre fille, l'aînée. Puis là, je fais, pourquoi t'as fait ça? Là, je dis, t'as-tu liché le front de Marie-Gabrielle? Là, elle me regarde en riant, en sachant que, tu sais, ouais, une autre croyance. Là, je dis, pourquoi t'as fait ça au juste? Elle dit, ben, c'est pour retirer le mauvais sort. Parce que si elle fait un cauchemar, si elle a une crise, c'est parce que quelqu'un dans la journée qui l'a vu, puis la personne était jalouse de sa beauté, puis elle lui a jeté un mauvais sort. Puis c'est la raison pour laquelle elle fait une crise, puis elle fait un cauchemar aujourd'hui. Fait que pour retirer le mauvais sort, il faut licher le front trois fois. Puis là, je fais OK, bon, d'accord. Mais tu sais, bon, tout ça, c'est cute. Tu sais, ça fait de mal à personne. Par contre, ça, c'est la troisième croyance qui m'a fait un petit peu plus freaker. Il y a environ 4-5 ans de ça, j'étais dans ma cuisine, puis je cherchais mon énorme couteau à steak. Il n'était pas dans le tiroir. Puis là, je demande à ma femme, je dis, il est où? T'as-tu vu le couteau à steak? Il est où? Puis là, la belle-mère, là, je la vois, là, elle se lève, puis elle s'en va dans notre chambre à coucher où le lit du bébé se trouvait, puis elle revient avec mon couteau, là. Puis elle me le donne, puis là, je fais... Merci, OK. Puis là, je me retourne vers ma femme et je dis, tu peux-tu m'expliquer ce que l'énorme couteau à steak faisait dans notre chambre? Puis là, elle me dit, ah, mais t'as pas remarqué, la nuit dernière, Marie-Gabrielle a fait un cauchemar. Je dis, oui, elle m'a réveillé à 3h du matin, je m'en souviens très bien. Là. Mais c'est quoi le lien entre ton cauchemar et le couteau à steak? Oui. Ah, ben, oui. Pour repousser les mauvais esprits, parce que si elle a fait un cauchemar, c'est à cause des mauvais esprits dans la chambre, j'ai mis le couteau sous son oreiller. Ça lui permet de se défendre. Ça lui permet symboliquement de se défendre contre les mauvais esprits. Donc, ça va l'empêcher d'avoir de nouveaux cauchemars. Puis là, tu sais, là, tu fais, c'est une joke, là? Puis là, tu réalises, c'est vrai, là. Puis c'est vraiment une croyance sincère. Puis là, là, il faut prendre ça avec doigté, puis il faut être diplomate. Là. Je dis, écoute, chérie, je comprends, d'accord, je suis d'accord avec toi, c'est une bonne croyance, mais il en reste pas moins que c'est un couteau à steak qui est en dessous d'oreiller d'un kit de 6 mois, là. Il y a quand même un danger. Il n'y aurait pas moyen de trouver un accommodement raisonnable, de trouver une solution pour conserver la symbolique, mais que ça ne soit pas dangereux pour l'enfant. Elle dit, ben vas-y, je suis ouverte à ta suggestion. Qu'est-ce que tu suggères? Puis je dis, la dernière fois qu'on a commandé de la pizza, ça venait avec des ustensiles en plastique blanc. Oui. Puis, on ne pouvait pas mettre un petit couteau en plastique blanc.
La symbolique.
Un couteau, c'est un couteau, tu sais. Donc, elle va pouvoir se défendre avec ce petit couteau-là aussi. Elle puis ma belle-mère, pendant 10 minutes, ils ont discuté de ma proposition. Là. Puis, tu sais, c'était là, des échanges entre Poutine et Zelensky. Là. Tu sais, c'était des échanges vraiment importants.
Ça se frottait.
Et puis là, au bout de 10 minutes, je me fais dire, d'accord, ton compromis est accepté. Mais, tu sais, c'est ça. Là. C'est, ici, les gens, musulmans sur papier, dans les faits extrêmement laïques, mais c'est comme s'ils compensaient l'absence de croyances religieuses par des croyances païennes comme ça. Il y en a qui font sourire, mais il y en a d'autres qui sont... tu dis, ça fait réfléchir un petit peu plus. Là, puis,
c'est quasiment un peu débile.
mais ils croient vraiment. Puis à un moment donné, je veux dire, à partir du moment où c'est une croyance qui est réellement sincère, on ne peut pas s'en moquer parce que pour eux, ça a vraiment, c'est significatif. Là. Puis tu sais, si tu ne craches pas trois fois à terre avant de voir un enfant pour la première fois, tu vas te le faire dire. Là. Puis tu sais, tu ne peux pas t'en sortir. Là. Fait que si un jour je rentre au Québec puis je vois vos enfants puis vous me voyez cracher trois fois à terre, c'est que
on comprend. J'ai pris les, on va comprendre.
J'ai pris les, vous comprendrez, puis ça veut dire que j'ai vraiment pris les plis de la culture locale.
Oui, chaque place dans le monde est différente. Tu sais, tu parles de cacher le bébé pendant 40 jours, mais ici, grand-maman et grand-papa sont quasiment entre les deux jambes de la femme qui a, de leur fille qui accouche. Là. Ça veut dire ici, le monde filme leur accouchement quasiment en direct et le met sur Facebook. Là.
Ben, c'est ça. Puis, tu sais, à un moment donné, quand tu t'es confronté à ces croyances-là, puis tu poses la question, mais pourquoi l'idée du 40 jours? Puis là, tu comprends, c'est un peuple nomade. Donc, le taux de mortalité là, infantile était extrêmement élevé il y a 200 ans. Ouais. Il n'y avait pas d'hôpitaux. Les gens vivaient dans des yourtes au milieu de la steppe. Donc, l'idée, c'était, si l'enfant est capable de survivre 40 jours, c'est que le bébé est en santé, puis tu sais, il va devenir adulte, puis on peut se permettre de le présenter au reste de la communauté. Si on présente un bébé dès sa naissance au reste de la communauté, puis il meurt une semaine plus tard, ça crée un choc. T'sais, toute la communauté est en deuil. Donc, l'idée de ne pas montrer le bébé pendant 40 jours, c'est de préserver le reste de la communauté d'un deuil potentiel. T'sais, quand tu replaces ça dans le contexte culturel, historique, tu dis « Ah oui, c'est vrai, ça fait du sens. » Puis dans le contexte d'aujourd'hui, tu dis « T'sais, c'est une bonne idée aussi de ne pas constamment mettre des photos là, de ses enfants sur les réseaux sociaux. Puis, c'est pour ça que les gens se plaignent. Ah, oh, Big Brother est partout, puis j'ai plus de vie privée.
Oui.
Mais tu sais, je veux dire.
Il n'y a pas besoin de fouiller, mais même travailler fort, tu mets tous les détails toi-même.
Ben, c'est ça. En fait, où tu dis, sur le plan culturel et historique, cette croyance-là, ça fait du sens. Puis finalement, au final, tu te dis, tu sais, c'est pas plus mal que ça de pas montrer ses enfants à tous les jours sur les réseaux sociaux à 90% de gens qui nous suivent, qu'on connaît pas en réalité. Là.
Mais tu parlais de peuples nomades, justement, le passé de ces gens-là. Puis l'affaire moi qui m'intrigue, j'ai lu là-dessus que ça vient du guide du routard. Là. Le guide du routard, ça, c'est des gens qui voyagent puis qui vont à des places dans le monde où ce que pas beaucoup de touristes vont. Tu n'es pas à Cancun dans un tout inclus. Dans ces places. Il y a des choses à comprendre. On parle du Kazakhstan, on parle de tout ce qui s'appelle chevaux. Ils ont les jeux équestres. Puis ça, c'est très, très important pour eux. Mais le bout que je comprends pas, c'est que autant qu'ils sont fascinés par les chevaux, autant qu'ils en mangent. C'est le bout que je comprends pas.
Ouais, ben moi non plus. Moi non plus, je comprends pas ça. C'est vraiment, c'est presque un animal sacré.
Oui.
Mais dans tous les restaurants, il y a toujours l'option d'un steak de cheval, qui est délicieux, là, en passant, là. Mais c'est ça. J'arrive pas à me l'expliquer. Mais il y a des fermes d'élevage de
chevaux. Pour la viande chevaline.
Oui. Et puis le plat principal, ça s'appelle du beshparmak. En kazakh, ça veut dire 10 doigts, parce que ça se mange avec les doigts. C'est un mélange de nouilles, de pommes de terre, puis de viande de cheval, bouillie. C'est pas très savoureux, ça manque un peu de goût, mais ça, là, à tous les mariages, systématiquement, c'est ce que les gens mangent, là. C'est la viande de cheval. Avec des nouilles puis des pommes de terre.
Est-ce que le cheval, tu peux le manger? Les gens qui mangent bleu, est-ce que tu peux le manger aussi bleu que... Parce qu'il y a certaines parties, même dans le bœuf, mettons, il y a des parties que même si tu manges bleu, on va, entre autres, le rib, on va demander d'aller un peu plus loin que le bleu pour faire fondre les gras, pour que le gras rentre dans la viande. C'est ça qui donne le goût. Donc, on va aller plus vers un saignant qu'un bleu. J'imagine que tout dépendamment de la pièce que tu prends dans le cheval... Quelle cuisson est la meilleure là, pour déguster toutes les ce qu'on recherche comme saveur avec le cheval?
Le problème ici, c'est que les normes du MAPAC ne s'appliquent pas. Donc, moi, j'ai commis l'erreur de déjà demander des steaks un peu saignants, puis le reste de la soirée, c'est mal passé. Là. Donc, les indigestions, les cas d'intoxication alimentaire sont quand même assez fréquent parce que les normes sanitaires sont pas les mêmes. Là. Puis si vous allez dans un bazar, dans la section viande, vous comprenez pourquoi. Là. Donc, pour s'assurer de ne pas tomber malade, minimalement, il faut que ça soit médium bien cuit. C'est question de tuer les microbes, les bactéries. Donc, bref, s'il y a un pays où j'essaie d'éviter le tartare de bœuf, c'est ici, là. Puis même là, si je dois aller dans un hôtel 5 étoiles, puis c'est sur le menu, là, puis tu sais, le gérant vient puis il t'explique, non, on est conscient de la norme ici dans le pays, puis on est conscient que ça peut être un problème, mais rassurez-vous, notre viande vient de l'étranger, puis est manipulée avec soin. Même là, je prends pas de chance, là. Donc, mes steaks de chevaux, c'est toujours médium bien cuit.
Et quelle est la partie qui est la plus recherchée ou la plus tendre ou la plus goûteuse? Tu sais, j'imagine qu'il y a un filet, il y a à peu près les mêmes parties que ce soir, c'est un filet mignon. Mais est-ce que c'est goûteux? Parce que le bœuf est quand même assez fade, le filet mignon. Est-ce que le filet de cheval est plus goûteux que celui de bœuf?
Oui, il y a un goût un peu sauvage, mais ce qui est vraiment différent du steak de cheval, c'est on peut presque le couper juste avec la fourchette. C'est une viande qui est extrêmement tendre, qui est pas grasse. Donc, en tout cas, pour le cholestérol, les gens qui font du cholestérol, la viande de cheval, c'est super, là. Puis ils boivent aussi le lait de cheval fermenté, puis le lait de chameau fermenté aussi. Là. Ça fait partie des mariages, là. Et lorsqu'on est accueilli dans une famille, les gens vont toujours sortir le koumis. Le koumis, c'est le lait de cheval, le choubat, c'est le lait de chameau. Puis vous n'avez pas le choix, il faut en prendre un verre. Là. Puis ça, disons que c'est un goût qui s'acquiert. Parce que la première fois qu'on en boit, là, on reste surpris pas mal. Le lait de cheval là, fermenté, imaginez-vous du lait qui avec un goût de vinaigre assez prononcé.
Oui,
au bout. C'est ce que ça goûte, là.
Pas sûr. On n'est vraiment pas sûr. Hey, merci, JF, c'était une super heure. Comme les autres, on se reparle bientôt. On surveille tout ce qui se passe. Bon, on va te lire sur Twitter, les gens qui cherchent. Je ne sais pas si ton Facebook est public. C'était une page à toi, public sur Facebook. Twitter, oui,
JFR Caron.
Oui, puis Facebook, c'est plus un Facebook privé, j'imagine?
Le compte est public. Il y a beaucoup de Jean-François Caron sur la planète. Si vous faites une recherche sur Facebook, vous allez vous en rendre compte. Je suis l'homme le plus fort au Canada, ici, non?
Oui! L'homme le plus fort au Canada, mais qui est couché dans son lit pas mal de ce temps-là.
Oui, il est blessé, là,
Ben oui. Hey, merci de va te coucher maintenant, c'est le temps de faire un gros dodo.
Ouais, coucher les enfants surtout.
Merci.
Salut, bonne journée. Salut, bye. Jeff Caron, en direct du Kazakhstan dans Jeff Liberté.
Bonjour, c'est Yann Sénéchal. Obtenir les services de votre conseiller.net pour gérer vos placements, c'est faire appel à une équipe qui utilise une ligne directrice stable, cohérente et qui traverse les années. En plus, obtenez des services complémentaires comme l'optimisation fiscale, la gestion des décaissements ou la projection de retraite sur demande, sans oublier l'optimisation de votre programme d'assurance. Pour plus d'informations, votreconseiller.net. Bonjour, Yann Sénéchal de votreconseiller.net. Dans bien des cas, le régime d'épargne étude est un outil fiscal puissant, même plus puissant que le CELI et le REER. Pourtant, il est sous-utilisé. Faites appel à votreconseiller.net pour obtenir une démonstration de sa puissance. Contactez-moi, votreconseiller.net.
Le Vegas, c'est le plus beau bar sportif à Québec. Pour voir des événements sur un écran de 12 pieds et sur nos 10 placements. C'est aussi des soirées karaoké, des DJ, des spectacles. C'est 8 tables de billard, des jeux d'art et un salon VIP pour vos événements. Donne fringale, viens goûter à nos ailes de poulet, notre pizza, notre smoked meat ou nos sous-marins. Le Bar Vegas est fier d'être pirate. Service de raccompagnement TZ disponible. Bar Sport Vegas, Boulevard Saint-Anne à Québec.
Vous voulez attirer des candidats de qualité et que votre PME soit perçue comme une entreprise moderne qui a le bien-être de ses employés à cœur? Proposez Protexio, un programme d'avantages sociaux révolutionnaire axé sur la liberté individuelle. Avec Protexio, vos employés sont libres de choisir ce qui est important pour eux. Voyages, yoga, animaux de compagnie, billets de spectacle ne sont que quelques exemples de dépenses bien-être admissibles avec Protexio. Pour en savoir plus, rendez-vous à protexio.ca. Protexio, liberté, flexibilité, équité.
Les hautes pistes d'Aubert et Mathieu sont des vins admirables. Un chardonnay brioché accompagne un pinot noir sur la framboise. Ils sont offerts à moins de 20 $. Je lance l'invitation. Goûtez les hautes pistes.